Oui, vous le savez, on parlait tout à l'heure de ce café scientifique qui aura lieu donc demain à l'Université de Neuchâtel à 18h, avec une première question: que fait la Suisse pour lutter contre la drogue?
Bon, on va en parler avec vous André Kuhn. Vous êtes professeur de droit pénal et de criminologie aux universités de Neuchâtel et de Lausanne. Bonjour quand même.
Bonjour.
Ah, on en parle au début. Ouais.
Et désolé pour le retard.
C'est une chose qui arrive. Alors, vous allez donc le modérateur d'un café scientifique intitulé « Lutte contre la drogue, stupéfiante contradiction ». C'est le titre d'une étude qui a été faite par deux avocats stagiaires, Ludivine Ferreira et Alain Barbeza. La politique de lutte contre la drogue de la Suisse, elle est stupéfiante ?
Alors, elle est stupéfiante dans le sens où elle est pleine de contradictions, puisque ça fait des années qu'on essaye de lutter contre les stupéfiants en essayant d'arrêter des consommateurs pour essayer de remonter au dealer, puis depuis le dealer, on envisage de remonter au producteur, etc. Et on se rend compte, par la force des choses, que ces 15 dernières années, ça n'a pas fonctionné, voire 25 dernières années, puisque ça fait plus de 25 ans qu'on tente la chose, et qu'on est dans un mur, on a toujours autant de consommation, on a toujours autant de ventes de stupéfiants dans les rues du pays.
La Suisse n'est quand même pas un cas isolé, ça se passe ailleurs un peu de la même manière, ou est-ce qu'il y a vraiment des exemples type où on réussit ?
Alors il y a des exemples où on réussit, alors tout est relatif, hein, mais la Suisse n'est pas un cas unique, c'est vrai, puisque la politique internationale est une politique qui vise à effectivement lutter contre les stupéfiants en pénalisant la chose. Mais il y a certains pays qui ont tenté autre chose, dont le Portugal. C'est un exemple très intéressant, puisque le Portugal a légalisé l'entier des stupéfiants, et a investi l'argent qu'on investit généralement dans la lutte contre les dealers, il l'a investi dans la prise en charge des personnes qui consomment. En faisant de la sorte, on a permis aux gens d'acheter des stupéfiants, et donc on envisage de les vendre de manière étatique. Alors là, ça va même encore un peu plus loin que le Portugal, hein. Le Portugal n'en est pas exactement là, mais l'idée serait éventuellement d'abolir la prohibition, finalement, comme on a aboli aux États-Unis la prohibition de l'alcool. Les Américains ne sont pas devenus tous des souillasses pour autant, et on a, quand on a aboli la prohibition, on a eu une réussite criminologique absolument monstrueuse, puisque tout la criminalité accessoire, dont Al Capone et les siens, hein, a disparu. Et donc, on a eu un immense succès. Et l'idée, ce serait de retransposer ce succès. Hein, donc, certaines personnes, dont Mme Ferreira et M. Barbeza, vont défendre cette position, finalement, de légalisation, non pas seulement des drogues douces, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est de légaliser le tout dans le but de permettre à une société d'être débarrassée, entre guillemets, de ses dealers. Et ce serait finalement... Enfin, les consommateurs devraient alors se tourner vers des producteurs ou des vendeurs officiels qui seraient taxés, comme on taxe la cigarette, comme on taxe l'alcool. En gros, ce serait mettre les stupéfiants au même niveau que l'alcool.
Parce que pour l'instant, si j'ai bien compris, la politique de lutte contre la drogue en Suisse, elle repose sur 4 piliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quels sont ces différents axes ?
Oula, alors, il y a... moi, je suis spécialisé dans l'axe répression, mais évidemment, il y a un des piliers qui est fondamental, hein, dans la prise en charge des stupéfiants, c'est le pilier lié à la prise en charge des toxicodépendants. Hein, et ce pilier, qui est finalement un pilier médical, est probablement celui qui devrait être développé largement. Et effectivement, actuellement, une immense partie de notre budget passe dans le pilier pénal ou répression, alors que l'expérience montre que ça ne marche pas vraiment.
Alors, vous parliez de l'exemple portugais, avec la légalisation de toutes les drogues. C'est rigolo parce qu'on n'en a pas tellement entendu parler. C'est resté un petit peu dans un coin. Enfin, moi, je l'apprends ce matin, cette information-là. Ça fait combien de temps qu'au Portugal, c'est en place ? Et puis, est-ce qu'on peut déjà avoir un peu de recul pour voir si c'est quelque chose qui marche ou pas ?
Alors, c'est en place depuis plusieurs années et en fait, c'est en train d'être évalué par les criminologues de l'université de Porto. Donc, c'est une expérimentation, hein, qui est en cours et effectivement, on dit ça semble marcher. Enfin, tout est relatif puisque on n'a pour l'instant pas le recul nécessaire pour pouvoir déterminer si la consommation de stupéfiants a reculé. En fait, ce qui a reculé manifestement, c'est toute la criminalité réalité accessoire, c'est-à-dire le deal et tout ça, a reculé, puisque les consommateurs pouvaient se procurer leurs stupéfiants ailleurs. Mais mentionnons aussi qu'en Suisse, on a quand même une politique de distribution sous contrôle médical qui existe, et on est aussi dans cette voie. On n'a plus seulement le volet répressif, on a aussi un volet prise en charge thérapeutique des gens, puisque en offrant à titre médical les substances,
la
évidemment.
La méthadone, par exemple.
Alors, pas seulement la méthadone, on a même des distributions d'héroïne sous contrôle médical, donc c'est pas seulement des drogues de substitution, mais c'est les drogues de base même. On leur offre une des stupéfiants de meilleure qualité, donc on n'a pas les problèmes de drogues coupées comme on a sur le marché. On casse le marché noir, donc on rend moins attractif les rues pour un certain nombre de dealers, et puis on prend en charge de manière ciblée les gens dont on a connaissance de leur toxicodépendance, puisque sinon, souvent, on ne sait même pas qui est toxicodépendant dans la société.
Mais ensuite, on a déjà voté sur ce sujet de libéraliser toutes les drogues, et pas seulement les drogues douces. Et puis, ça a été des refus populaires assez conséquents. La Suisse, la population suisse, elle est prête, selon vous, à faire le pas, et puis à suivre ces arguments qui paraissent assez raisonnables?
Écoutez, de toute façon, un argument raisonnable reviendra régulièrement, et puis un jour, la raison l'emportera, puisque l'autre solution, qui est la criminalisation à tout va, on a beau augmenter les sanctions, ça ne change rien. On le voit avec la circulation routière, on vient d'augmenter les sanctions méchamment, et puis qu'est-ce qui arrive à Genève? Il arrive que les gens courent après en voiture et puis se s'entretuent. Je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on a des sanctions plus lourdes que les gens réagissent de manière
plus raisonnable.
Plus raisonnable, non, pas vraiment.
Alors le sujet de la lutte contre la drogue, les stupéfiantes contradictions justement de la politique suisse en cette matière, ça va être l'objet d'un café scientifique demain soir à l'université de Neuchâtel. Ça commence à 18h et il y aura vous qui serez là pour l'animer. Parmi les autres invités, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, André Kuhn ?
Eh bien, il y aura une personne qui est chargée de la prise en charge de toxicomanes, et il y aura un procureur, puisque évidemment il faut aussi que le côté de la poursuite pénale soit représenté. Une poursuite pénale qui a d'ailleurs aussi des arguments criminologiquement tout à fait valables, puisque, par exemple, c'est d'ailleurs un argument qu'on n'entend jamais, mais qui existe. Par exemple, on sait que l'individu, nous tous, avons tendance à vouloir enfreindre la norme. En d'autres termes, plus la norme sera basse, plus nos infractions à la norme seront bagatelles. Donc en fait, si on criminalise le fait de fumer une cigarette, bien certains auront l'impression de faire un acte déviant ou criminel en fumant une cigarette, et donc ils s'arrêteront à ce niveau-là. Si on décriminalise le fait de fumer un joint et de prendre des stupéfiants, alors peut-être que ceux qui auront besoin de qui ont cet attrait de l'interdit, eh bien ils se tourneront vers d'autres infractions. Donc là aussi, on a un argument tout à fait valable, et qui n'est pas celui de la dissuasion qui ne marche manifestement pas, mais celui de la permission de faire quelque chose de criminel, mais qui n'est quand même pas si grave que ça.
Merci beaucoup André Kuhn pour toutes ces explications.
Mais de rien.
Le débat se poursuit donc.
À demain soir.
À demain soir, exactement, à l'université de Neuchâtel. Toutes les infos sur le blog de Format A3. Les amis, on se retrouve demain.
Avec plaisir.
Bye bye.
C'est plus sympa. Format A3.